Je me tourne vers la chronique Au-delà des limites. Et aujourd'hui, je vais parler avec Priscilla Gagné. Priscilla Gagné, elle est membre de l'équipe canadienne paralympique en judo. Elle a été médaille d'argent et porte-drapeau de l'équipe canadienne aux Jeux paralympiques de Tokyo. Elle a de nombreuses réalisations, dont la semaine dernière, et elle considère plusieurs autres réalisation pour le futur. On va parler de tout ça. Bonjour, Priscilla Gagné.
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va très bien, merci. Et vous, c'était quoi la... Est-ce qu'il y a une grosse différence de température entre le Portugal et Montréal?
Pour dire que oui.
Ah oui, à ce point-là?
Je crois que la température là-bas, on était à peu près 11 à 13 durant la journée avec un grand soleil. Puis là, je pense, avec le vent et tout, on est rendu à moins 35.
Oui. Bon, alors oui, il y a une différence. Maintenant, vous étiez au Portugal, vous étiez à Almada, au Portugal, lors d'un grand prix de parajudo, et vous avez remporté la médaille de bronze. Et j'ai vu dans votre parcours, vous avez remporté des médailles d'or, d'argent, de bronze dans plusieurs compétitions importantes internationales. Est-ce qu'il y a des médailles qui sont plus satisfaisantes que d'autres? Est-ce que, par exemple, une médaille de bronze, quand vous gagnez le bronze, est-ce que vous êtes très satisfaite versus une médaille d'argent où vous avez perdu le combat, mais vous avez gagné la médaille d'argent?
Ça dépend si c'est avec qui que j'ai gagné ou perdu. Pour exemple, je crois que les plus spéciaux moments de ma vie, c'est quand j'ai, quote, gagné le... médaille d'argent, même si ça veut dire que j'ai perdu le combat pour le or, parce que c'était à Tokyo, puis c'était tellement un parcours dur avec le COVID, les restrictions, surtout avec l'équipe Tara. Alors, pour cette raison-là, et la fille avec qui j'ai perdu est maintenant déclassée, fait qu'elle peut voir très bien. Puis elle complète avec le judo régulier maintenant, puis elle fait très bien.
Ah.
Puis, fait pour dire que je suis pas trop déçue d'avoir perdu contre elle non plus. Là,
Vous avez presque une médaille d'or, en fait.
C'était très, très proche.
Très, très, très proche. D'accord.
Oui, je le sentais.
J'ai regardé plusieurs vidéos sur vos combats. J'ai regardé des entrevues que vous avez données. Et ce qui me fascine, c'est votre amour des sports de combat, d'où ça vient ça? Vous avez fait de la lutte, vous avez fait du judo.
Oui.
D'où ça vient ce goût pour des sports de combat?
Tu sais, je crois que j'étais née avec un esprit de combattif.
Oui.
J'avais un grand frère, j'ai un grand frère. Puis on faisait tout le temps de lutte ensemble. Puis quand j'étais toute petite, je voulais toujours faire ce que les autres enfants faisaient. Récréation, c'est l'équipement, ça courait, ça jouait, mais les professeurs ne me laissaient pas. Je voulais participer dans les sports comme le basket ou la course, mais ils ne me laissaient pas. Ils disaient que c'était trop dangereux, non. Fait que là, quand j'ai découvert que j'étais à l'école pour les non-voyants, à la 9e année, secondaire 4 probablement, j'imagine, puis, ou 3, en tout cas, puis j'avais 14 ans, puis j'ai découvert la lutte, puis je me combattais contre des personnes voyantes. Puis j'étais aussi bonne que eux. Puis là, la karaté, j'aimais ça parce que je pouvais donner des coups, on fait des coups, on fait des
jumeaux. Ouais.
Puis c'était le fun. Puis mais là, il n'y a pas de lutte en parajudo.
Oui, oui.
Surtout pas de karaté pour les non-voyants en parajudo.
Bien sûr.
Fait qu'en paralympique, excuse. Fait que j'ai changé pour le judo. Puis ça m'a attirée parce que c'est un peu comme la lutte, excepté il y a des clés de bras et des étranglements, des soumissions. Puis ça m'a vraiment très inspirée.
Et comment vous avez été découverte? Oups, j'ai failli dire découverte. Comment vous avez été découverte pour votre grand talent en judo?
En fait, c'était à l'école secondaire pour les non-voyants qu'il y avait quelqu'un sur l'équipe de lutte avec moi qui faisait aussi le judo, puis il parlait avec son coach de judo. Puis moi, je voulais rien savoir parce que j'étais déjà très bonne en lutte. Puis ça me tentait pas d'apprendre un nouvel sport dans ça. J'avais 15 ans. Fait que à peu près 8 ans plus tard, j'avais 23 ans, j'ai rencontré un des autres athlètes de judo dans un aéroport. C'était vraiment un flou. Puis je lui ai demandé s'il cherchait encore des gens pour faire l'appareil judo. Puis il m'a dit que oui. Il m'a donné le numéro, le courriel de son coach. Puis le reste, c'est juste ça s'est développé de là.
Donc, j'ai vu que pour vous, participer aux Jeux olympiques, c'était un rêve depuis que vous étiez tout petite.
Oui, je ne savais même pas qu'il existait la paralympique, surtout pas pour les non-voyants. Alors, moi, je rêvais d'être dans les Olympiques comme Michael Johnson, qui a fait la course avec les souliers d'or.
Oui, oui, oui.
Puis ça m'a tellement mis un feu en moi que je voulais tellement. J'ai dit, ça, je peux faire comme toutes les autres. Moi, là, je peux courir. Mes yeux ne fonctionnent pas, mais je peux courir, tu sais. Puis là, je courais à l'école, je courais aller à la maison, là. Puis je checkais le temps tout le temps, puis je donnais pas de raison d'excuse d'être plus lent s'il y avait des autos, un arrêt, ou ça comptait pas, là. Je me donnais aucune raison. Puis ça a juste resté en moi toujours, même si je travaillais pour Canadian Tire, je faisais des travaux dans des affaires que j'ai pas étudiées, mais c'était toujours en arrière de... C'était toujours dans mon cœur, en fait. Puis j'ai jamais lâché la rêve. Puis à un moment donné, ça a juste tout débloqué. Puis la grand rêve s'est réalisé en 2016.
Puis là, le rêve s'est matérialisé en 2016 à Rio. Mais parlons de Tokyo. Vous êtes choisi pour être porte-drapeau. C'est un honneur extraordinaire. Mais vous rentrez dans un stade à Tokyo où il y a la COVID. Donc, il n'y a personne dans le stade. Racontez-nous.
Oui, ça, c'était tellement un grand honneur pour être nommé le porte-drapeau pour l'équipe paralympique. Puis c'était un peu dans le temps qu'il a découvert tragiquement tous les enfants qui étaient tués puis enterrés. Puis ça commençait dans... Ça, c'était à peu près le temps que j'ai eu les nouvelles que j'étais porte-drapeau pour Canada.
Oui, oui, oui.
Alors, faut vraiment là que je me cherche dans mon cœur. Ça veut dire quoi, ça, pour moi, pour être porte-drapeau pour Canada dans ce contexte-là, tu sais? Mais l'équipe paralympique, c'était tellement... On a eu tellement de restrictions injustes comparé avec l'équipe olympique. Alors, puis on avait tellement discuté, même aller magasiner, aller dans les magasins. Moi, je suis non-voyant, alors ça prend un guide, mais on n'avait pas le droit d'être en dedans de 6 pieds d'un et l'autre. Puis je me suis fait demander pour sortir d'un magasin plusieurs fois.
Mm-hmm.
Puis... Tu sais, c'est tellement... c'était pas juste moi qui a survécu ça. C'était plein d'autres athlètes sur l'équipe Para qui ont eu similairement des expériences. Alors, pour être nommé porte-drapeau, pour moi, c'était pour représenter cette population-là de Canada. Puis c'était vraiment les Paralympiennes que je représentais.
Wow.
Puis parce que c'était tellement un parcours dur, puis il y avait toutes les restrictions, même à Tokyo... On avait juste le droit d'avoir une porte-drapeau, un guide, un docteur, un homme de sécurité, puis le chef de mission. C'était toute la délégation pour Canada aux cérémonies d'ouverture. Fait que dans mon cœur, je marchais avec tout le monde. T'sais, j'imaginais dans ma tête toute l'équipe en arrière de moi qui criait, qui sautait, qui tapait les mains, qui faisait toutes les affaires, là, mais je marchais avec eux dans mon cœur qui faisaient la même chose. Fait que je marchais... pas juste en représentant eux autres, mais j'ai marché avec eux. On a marché tous ensemble dans mon cœur, puis j'ai tout expérimenté ça pour eux en même temps. Donc, c'était vraiment un grand, grand moment pour moi et pour Canada.
En deux mots, parce que je veux passer un peu de temps sur vos cours d'autodéfense, est-ce que vous vous préparez pour les Paralympiques de Paris en 2024?
Oui, c'est sûr. Je suis présentement numéro un dans le World Ranking.
Okay.
Puis si je peux rester dans le top 4, ça va être bon, mais c'est sûr que je continue le parcours. On fait pas mal une compétition par mois quasiment. Jusqu'à Paris.
Jusqu'à là-bas. On va vous suivre, c'est sûr. Maintenant, en quelques mots pour terminer, parlez-nous des cours d'autodéfense que vous donnez.
Oui, en fait, ça va être ma première cours que j'enseigne, l'autodéfense pour ceux qui sont non-voyants ou semi-voyants. Et ça m'a vraiment... Parce que moi, je fais le judo, le combat. Moi, ça vient naturellement si quelqu'un me prend le bras quand je veux pas d'assistance ou me défendre. Je suis toujours prêt. Mais il y a beaucoup de monde qui ont jamais fait de judo, ils ont jamais fait de lutte, puis c'est pas en eux pour vraiment se défendre. Puis je veux donner la confiance aux gens, aux familles aussi, des gens qui sont non-voyants puis semi-voyants, pour leur montrer que tu n'as pas besoin d'être un judoka paralympien pour te défendre, puis pour te porter avec la confiance, puis comment utiliser ta voix, ta posture, puis même juste connaître tes alentours un peu, comment ça peut t'aider. En plus, montrer quelques techniques pour se défendre ou se protéger. Puis j'aurais aimé ça, avoir ça quand j'étais adolescent, puis je crois que mes parents y auraient aimé ça aussi. Alors, ouais, c'est ça, j'ai très excité, ça va être les samedis après-midi, la première, c'est samedi qui s'en vient, demain. Puis, mais je vais en faire plein, là, ça, je vais en continuer d'en faire durant l'année. En anglais puis en français.
C'était vraiment une conversation très inspirante. Je vous souhaite le meilleur pour votre premier cours d'autodéfense demain et on va suivre votre parcours vers Paris l'année prochaine. Merci beaucoup, Priscilla Gagné, pour cette conversation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci. Bonne journée.